Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors vous savez que on vient au culte quelquefois avec nos fardeaux et nos soucis, c'est peut-être le cas de certains, et on a besoin véritablement de la grâce de Dieu de ressourcement. Alors j'ai eu la pensée dans mon cœur ce matin de vous encourager. Vous allez me dire, je fais ça à chaque fois. Hein. Je suis pas là pour vous décourager, mais pour nous encourager les uns et les autres. Alors on va simplement lire un premier texte, si vous voulez bien. Première parole, dans le livre des Hébreux. Livre des Hébreux au chapitre 12. Et nous allons faire notre lecture au verset 1er, par exemple. Verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Et il est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alors, dans ce premier passage, nous en lirons un second d'ici quelques instants, mais il y a un mot qui nous interpelle et qui est susceptible de nous interpeller les uns et les autres, c'est le mot carrière. Voilà. Vous avez remarqué avec moi, il est question de la carrière qui nous est ouverte. Et si nous donnons une signification à ce mot que nous connaissons, eh bien, cela évoque tout simplement la profession, la vie professionnelle, ou un engagement dans lequel, dans lesquels profession et engagement, on se consacre, on se donne. Voilà, c'est ainsi que on peut parler de différentes disciplines dans notre vie, où véritablement, eh bien, c'est le sujet principal de notre existence dans le domaine d'une activité. Naturellement, il y a bien d'autres choses. Alors, c'est ainsi que l'on peut donc donner une définition, mais c'est aussi, on peut peut-être l'expliquer de cette manière. Eh bien, c'est l'ensemble des étapes à parcourir pour parvenir au but. Et nous savons qu'en matière de vie chrétienne, il y a naturellement, eh bien, toutes sortes, il y a une formation, on pourrait dire. Celle sur laquelle je compte, c'est surtout la formation du Saint-Esprit. Ça n'exclut pas naturellement toute l'acquisition de compétences, de qualifications et tout ce qui peut aller avec. Mais je crois que le meilleur des enseignants, c'est quand même, eh bien, le Saint-Esprit. Et vous avez lu avec moi, il y a quelques instants, nous avions dit ces choses, nous l'avons lu. Il nous est dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est comme cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux propose et ouvre naturellement ce chapitre. La première chose, ce qui vient en premier, c'est que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, qu'est-ce que cela peut veut dire? C'est que nous n'avons pas fait le monde, nous n'avons rien inventé, mais que, ne serait-ce qu'en jetant les regards sur la parole de Dieu, nous avons là des exemples d'hommes, de femmes, des hommes de foi, des hommes de consécration, qui en quelque sorte nous ont montré le chemin. Quand je pense par exemple à Abraham, nous pouvons penser à Moïse. Nous pensons naturellement à tous ces grands hommes comme David et les uns et les autres. Ça fait partie de cette si grande nuée de témoins qui ont une valeur pour nous en tant que chrétiens, hommes de l'ancienne alliance, c'est vrai, mais qui peuvent nous inspirer parce qu'ils ont été marqués par la foi, qui est le caractère de la nouvelle alliance. La grâce et la foi, c'est véritablement ce qui marque profondément, eh bien, cette nouvelle alliance. Et cela, nous devons nous rappeler, c'est que nous commençons peut-être dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne, pour certains d'entre nous, pour d'autres, bien, ça fait peut-être quelques décennies, quelques années. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons nous souvenir que nous avons eu des prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont marché, qui ont ouvert la route, qui ont souffert, qui ont lutté pour que nous puissions avoir en quelque sorte un chemin de tracé. Ça ne veut pas dire que notre chemin sera facile. Mais néanmoins, eh bien, nous devons prendre exemple sur ces hommes, ces femmes. Alors, puisqu'il y a des gens qui nous ont devancés, nous devons les retenir. Et il nous est demandé, pour pouvoir marcher convenablement, il nous est demandé de rejeter, ou tout simplement, je prendrai un autre mot, d'évacuer tout ce qui pourrait entraver, c'est-à-dire retenir ou empêcher, nous empêcher d'avancer. C'est pour ça que nous avons vu ces gens avancer avant nous. Nous avons un exemple suprême, c'est celui de Jésus. Et nous savons de quelle manière, eh bien, il a été le parfait modèle. Mais dire que par-delà, eh bien, nous avons besoin de prendre finalement toutes les dispositions pour ne pas être retenus par des fardeaux, comme cela est dit, ou alors le péché, qui peut être là encore présent dans notre vie, en sachant que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes déjà dans la sainteté. Nous tendons, nous sommes perfectibles, mais qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous-mêmes des obstacles, et puis aussi l'inquiétude, les soucis, les fardeaux, c'est le mot qui est employé. Alors, vous avez remarqué, il y a un verbe qui est un verbe de l'action, comme tous les verbes, c'est toujours pour démontrer, faire la démonstration de l'action. Il est question de courir, et s'il s'agit de courir, c'est qu'il y a une course, il y a quelque chose. Marcher est une chose, courir en est une autre. Et on ne court pas n'importe comment, parce qu'il faut être vigilant quand on court. On marche, eh bien, les choses sont moins rapides. Mais quand on court, alors il faut finalement être peut-être plus attentif. Et cette image de courir est en quelque sorte la démonstration de notre volonté, l'image de notre volonté en action, de notre détermination, on peut le dire sous ce mot, une énergie à déployer, parce que c'est vrai que si vous avez vu les athlètes, là, il y avait les Jeux Olympiques dernièrement, je peux vous dire qu'ils ne regardent pas de droite et de gauche, ils vont vers le but. Et on s'aperçoit qu'ils sont dans une tension, parce que c'est d'arriver au terme de leur course. On pourrait dire en termes sportifs, un mot que vous connaissez, c'est la pugnacité. Je veux, je tends à arriver et à parvenir. Donc ça demande des efforts. Ça se fait pas tout seul. Je sais que le plus gros du travail a été fait par le Seigneur, hein, c'est Jésus, puisque nous nous reposons en lui. Nous avons mis notre confiance, même quelquefois lorsque nous éprouvons des doutes et toutes sortes de défaillances, eh bien, on va en parler d'ici quelques instants. Là, nous devons puiser en lui toutes les forces qui nous sont nécessaires. Alors donc, la course dont nous avons entendu parler, ça serait plutôt, c'est pas tant un sprint, mais plutôt un marathon. C'est une course, un marathon, hein, mais c'est une course d'endurance, en d'autres termes, de persévérance à travers les bons et les mauvais moments. Les mauvais moments, on les appellera tout simplement l'épreuve. Carrière qui nous est ouverte, nous dit l'auteur de l'Épître. Une carrière qui nous est ouverte, une carrière qui est fermée. Je fais naturellement l'opposition. Parce que la voie est tracée. Et ça, c'est intéressant de savoir que nous avons déjà derrière nous des gens qui ont marché, qui ont été vainqueurs et qui nous encouragent à poursuivre naturellement dans la ligne dans laquelle, dans le chemin dans lequel ils ont marché. Mais nous savons qu'aujourd'hui, avec la réalisation pleine et entière à travers le message de l'Évangile, eh bien, c'est une carrière, elle est ouverte, la porte est ouverte, le chemin est ouvert. Il a été déblayé, on pourrait, si on veut s'exprimer de cette manière, une voie tracée. Et il s'agit tout simplement de la suivre. On a naturellement, qui nous vient à l'esprit, cette parole fameuse de Jésus quand il nous dit « Je suis le chemin ». Ouais. Je suis la vérité et je suis la vie. Donc au bout de ce chemin, dans ce chemin, il y a la vie même. Et nous la puisons naturellement autour de la personne de Christ. Cette voie Ce chemin a un auteur, c'est Jésus. Et on va le trouver d'ici quelques instants. Notre rôle essentiel, eh bien, est tout simplement de regarder à lui, celui qui alimente ou qui stimule notre foi. Je me suis permis de prendre une autre traduction que celle que nous avons dans la version Louis II, qui est très, très connue en ce qui nous concerne, mais la traduction donc moderne, où il est dit ceci, je vais faire la même lecture et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui pourraient être susceptibles de nous donner une autre compréhension bien de ce récit. Il nous est dit, mais c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui gêne, de tout ce qui peut nous gêner, ou de tout ce qui peut nous alourdir, ou alourdit notre marche, et tout péché qui s'accroche, qui nous enlace si facilement, avec ce mouvement où il est dit « courons résolument vers le but proposé ». Un chrétien a quand même un but devant lui, autrement c'est quelque chose de désespérant. Dans la piste tracée d'avance, parce qu'elle est faite pour nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du début jusqu'à la fin. Notre référence essentielle, unique, c'est Jésus. Dans cette aventure de confiance entre nous et lui, il est notre chef de file, il a ouvert la route et il nous mènera jusqu'au bout. Voilà ce que nous dit une traduction que vous connaissez, que vous avez peut-être d'ailleurs peut-être déjà pris connaissance. Maintenant, en voici un exemple concret, parce que là je vous ai donné le principe biblique, mais nous allons maintenant visiter un autre texte où il nous est montré à l'évidence que l'on peut bien commencer et mal finir, mais qu'il vaut mieux bien commencer et bien finir. Et on va faire la lecture donc d'un récit, parce qu'il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent. Ouais. Et je pense que si nous sommes réunis ce matin, c'est pas pour nous appesantir pour ceux qui perdent et ceux qui sont en voie de perdre la course, parce qu'il y a des abandons, parce qu'il y a des incidents, il y a des accidents, mais nous voulons être de ceux qui gagne. Nous sommes avant tout, et bien là, dans la suite de Jésus, des hommes et des femmes qui, par la foi, vont remporter la couronne et le prix de la course. Et ça, c'est important. Dans le livre des Nombres, et c'est là où nous allons faire notre lecture, livre des Nombres, si vous voulez venir dans ce livre, chapitre... Alors, ça sera donc... au chapitre 13 et au verset 1er, et nous poursuivrons par un commentaire au fur et à mesure que nous allons développer notre message. Donc, Livre des Nombres, c'est l'Ancien Testament, et là nous allons voir à l'évidente qu'il y a des gagnants et des perdants. Et on va avoir les raisons de la victoire, et on aura aussi les raisons de la défection, naturellement. Alors voilà, je lis les trois premiers versets. « L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël, et nous avons la liste que je ne vais pas lire, mais dont nous allons en effet voir, eh bien là, quel était le choix de Dieu. Il y a naturellement dès le départ une mise en marche, puisque c'est Dieu qui parle à Moïse, c'est pas Moïse qui envoie des espions dans le pays de Canaan pour voir ce qui s'y passe, mais l'ordre, il vient d'en haut, et c'est Dieu qui parle à Moïse de faire quelque chose. Donc, nous avons là une mise en marche, puisqu'il était question de marcher et de courir. Ensuite, il est question de l'objet même de la parole que Dieu donne. Il va dire tout simplement « envoie des hommes pour explorer ». Donc, il y a déjà un contenu du pourquoi Dieu appelle. « Envoie » et pour explorer le pays. C'est un rappel de la promesse qui vient ensuite, puisque il est clairement défini que il faut envoyer des espions pour visiter le pays que Dieu a choisi, et il est rappelé finalement que c'est une vieille promesse qui remonte déjà depuis les temps très très anciens et qui avait été faite à Abraham, qui avait été faite aux patriarches, qui a été faite également et qui est renouvelée à Moïse et au peuple d'Israël au moment où il va falloir rentrer dans ce pays de bénédiction et de grâce. Il est dit « le pays que je donne aux enfants d'Israël ». Voyez, si on décompose le texte, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très cohérent. D'abord, Dieu parle. Ensuite, eh bien, il va donner un ordre de mission, explorer, visiter le pays, voir ce qu'il en est. Et ensuite, il fera le rappel de cette promesse, parce que notre foi s'appuie toujours sur des promesses. Elle s'appuie toujours sur quelque chose, finalement, eh bien, qui doit rester et qui doit demeurer dans notre cœur. Et puis, nous nous apercevons qu'ensuite, Dieu va faire des témoins de sa puissance, des témoins de sa bonté et de sa gloire, par le fait même que les Hébreux vont rentrer maintenant, après une longue espérance, après de longues souffrances, dans le plan de Dieu. Il y a un rappel donc où Dieu dit « je fais des témoins au nombre de 12 », c'est-à-dire un chef. Un prince de chaque tribu d'Israël va se lever et ce sont des responsables. C'est-à-dire que ce sont pas des gens comme ça qui sont pris à la volée, mais Dieu les a sélectionnés parce que il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, notre démarche n'est pas une démarche béate en disant voilà, tout est beau, tout est formidable, etc. Non, non. Nous devons devenir des adultes spirituels. Nous devons faire preuve de maturité. Et nous allons voir que dans certaines situations, bien, c'est pas toujours ce qui se passe. Vous savez que Dieu a eu fort à faire avec le peuple d'Israël, hein, même avec les rois d'Israël, parce que ils avaient un petit peu leur pensée et Dieu leur disait mais allez dans ce sens parce que c'est là où je vais vous bénir, c'est là où je vais vous donner véritablement ce que vous avez besoin. Et puis ils faisaient souvent très le contraire. Donc nous nous apercevons qu'il y a 12 principaux chefs des tribus d'Israël qui vont être sélectionnés. Or, il y a dans l'équipe 2 hommes qui vont se distinguer comme des vainqueurs. Ils s'appellent Caleb et l'autre Josué. Eux, ils vont se démarquer. La proportion est faible parce que sur 12, il y en a 2 seulement qui vont dire comme Dieu, qui vont marcher dans les voies de Dieu, qui vont rentrer dans l'héritage de Dieu. Et puis, vous avez remarqué avec moi, il y a hélas 10 qui vont témoigner d'une carrière ratée. C'est-à-dire qu'ils vont rater la porte. C'est quand même dommage. Ils ont été appelés au même titre que les autres, mais par des dispositions intérieures, par un refus d'obéir à Dieu, et surtout un refus de faire confiance à Dieu. Une 10 vont rester un petit peu sur le bord du chemin, pour raison évidente d'incrédulité. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu les envoie. Ils ne croient pas également qu'ils ont une carrière à remplir. Ils ne croient pas que ce qu'ils vont voir, ce sont des bonnes choses. Et ils ne croient pas que la promesse leur est donnée aussi à eux. Ça fait beaucoup, hein. Et on comprend qu'il y a des gens, quelquefois, qui sont à la traîne. Qui sont là, en disant toujours à Dieu, ben, parle-moi. Révèle-moi, inspire-moi, montre-moi, et ceci et cela, alors que il y a bien longtemps que Dieu leur a dit tout ça. Mais comme il y a un problème au niveau de leur cœur pour croire simplement, bah, Dieu fait avec. C'est sûr que le peuple d'Israël, il est rentré entièrement, pas dans un premier temps, mais entièrement. Mais ça aurait dû être autrement, ça aurait dû certainement être autrement et différent. Alors nous allons suivre leur histoire. Et on va reprendre dans le verset 17, parce que c'est le cœur même de notre sujet. Le verset 17 nous parle ceci. Moïse donc les envoya pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que Dieu va en quelque sorte et bien leur donner des indications précises de monter sur la montagne. Et vous savez que pour comprendre les plans de Dieu, il faut toujours un peu d'élévation. Il nous est dit qu'il y a certains hommes dans la Bible qui avaient l'intelligence des plans de Dieu ou de la volonté de Dieu. Ça, c'est formidable. Et s'il y a quelque chose que nous avons à réclamer dans notre vie spirituelle, c'est que Dieu nous donne son intelligence, le bon sens des choses de l'esprit. Et la première chose va commencer, non pas à se précipiter dans le pays de Canaan pour voir ce qui s'y passe, mais d'abord à monter là où ils sont, à monter sur une montagne pour regarder. C'est toujours sur une montagne que l'on voit le mieux ce qui se passe dans la vallée, hein, naturellement, parce que là, l'horizon est ouvert. Et c'est la première chose qui va être dit, parce que Dieu va leur demander, vous allez contempler, vous allez monter sur la montagne, et vous allez déjà de loin contempler ce que je vous promets, ce que je veux mettre à votre disposition, ce que votre Dieu va faire, et ce qu'il est en train de préparer pour que vous soyez bénis. C'est toujours cette question de hauteur spirituelle. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à être des myopes spirituels. La myopie, c'est mon problème. C'est pour ça que je mets mes lunettes, je les enlève, je les remets, etc., etc. J'ai un problème de ce côté-là. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut s'approcher très près. Mais Dieu nous donne de voir de loin et de haut. Si je pense que c'est une qualité de la vie spirituelle, et il faut prendre de la hauteur, c'est important. Et si nous allons plus loin, nous allons découvrir un petit peu le encore quelques éléments du contexte. Au verset 18 à 20, eh bien, nous allons voir ce que Dieu leur dit. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, ce qu'est le pays, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qui est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Et Dieu va terminer, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins et c'est une signification que nous allons donner d'ici quelques instants. Voici l'inventaire de la bénédiction. On pourrait peut-être l'exprimer de cette manière. Donc les espions qui vont devoir ensuite parler devant tout le peuple de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu pendant ces 40 jours, parce que ça va durer 40 jours, hein, la visite du pays, ils vont en faire l'inventaire. Mais je précise, c'est une bénédiction. Dieu aurait pu dire c'est bon, allez-y. Non, Dieu nous dit c'est bon, c'est très bon, c'est formidable, c'est le meilleur que je vous donne, mais vous allez juger vous-même d'abord. Vous savez que Dieu respecte notre liberté. Ouais. Nous ne sommes pas des automates et nous ne sommes pas des robots. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, de cette disposition divine que Dieu a à l'égard de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas dans un régiment, nous ne sommes pas contingentés, nous avons cette liberté. Et Dieu nous dit, bien tout simplement, voilà, j'ai mis ça devant toi, regarde, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien. Et puis tout ce qu'il peut y avoir en contraste, naturellement, qui s'ensuit. Et vous savez pourquoi Dieu fait ça ? C'est qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier parce que Dieu veut nous mettre toujours et chaque instant et à chaque jour de notre vie, il nous place devant un choix. On peut choisir le bien, on peut choisir le mal. Et cela, ça va à l'infini. Mais il nous demande de choisir non pas seulement le bien, mais le juste bien, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le meilleur. Ouais. Nous devons avoir des ambitions dans notre vie. C'est pas de nous contenter peut-être de choses médiocres, mais de choisir ce qui est au-dessus du bien et de donner une appréciation de liberté. C'est pour ça, Dieu dit, vous verrez. Vous verrez le vrai et le faux. Vous verrez le bien et le mal. Vous verrez le fort et le faible, ou la force ou la faiblesse. Et vous savez que Dieu est un formidable pédagogue parce que il fait en sorte que tout soit propice au développement moral et de la conscience spirituelle. Un chrétien n'est pas un oui-oui ou un oui-oui béni. Hein. Nous avons notre propre responsabilité. Il y a des choses que nous devons apprécier et que nous devons prendre position. Et pourtant, devant les meilleures choses que Dieu présente au peuple d'Israël, il va leur dire en substance, eh bien, je vais développer votre conscience spirituelle. C'est à vous. Et pour les raisons que je vous ai dit, c'est que, eh bien, ils nous respectent tout simplement. Et nous voyons que l'invitation divine se termine ainsi, ayez bon courage. Dieu va pas faire à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'il leur dit, mais Moi, je vous encourage, allez-y, rentrez, prenez. Vous savez, c'est toujours la main de la foi qu'il faut tendre. Dans tous les miracles que nous voyons, et particulièrement les miracles de prodiges que nous avons dans l'Évangile, il y a des hommes qui viennent avec toute leur infortune, leur détresse, leur misère, toutes sortes de choses qui nous sont présentées. Mais il y a toujours une démarche. Au paralytique depuis 38 ans, amorti dans son infirmité, dans sa maladie, Jésus lui dit, veux-tu encore être guéri? Donc il y a simplement cette disposition à l'intérieur de nous-mêmes pour dire, mais je le veux encore. Je le veux. C'est tout ce que Dieu nous demande. Je le veux et je le crois que tu peux me le donner. Et ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est-à-dire, ce qui fait la vertu d'un fruit, c'est que nous l'apprécions par le goûter. Il est mûr ou il est trop avancé. Mais quand il est à point, il est savoureux, il est excellent. Alors prenez des fruits du pays, goûtez et jugez vous-même. Et après, vous verrez combien le Seigneur est bon. C'est ce que nous dit un psaume. Hein? Voyez combien Dieu est bon. Et c'est vrai qu'il est bon, mais dans ce respect qu'il a pour nous. On va aller un peu plus loin. Il nous est dit que ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahiman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. C'est intéressant. À noter une chose, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'au milieu des difficultés et des épreuves de la course, Dieu ne nous abandonne jamais. Alors ça peut être un réconfort pour ceux qui ont passé une mauvaise semaine, hein, ou tout simplement des temps difficiles. Ouais, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, Dieu est là. Et en quelque sorte, cette parole que nous avons dans le livre des Hébreux, quand il est dit ceci, « Je ne vous abandonnerai pas, je vous ne délaisserai pas. » Alors, pourquoi avoir de la crainte? Vous connaissez, hein, dans le livre que nous avons lu précédemment, c'est ainsi que les choses sont définies. Parce que Dieu, dans nos difficultés, nos problèmes de la vie quotidienne, parce que ce qui tue, c'est le quotidien. Bon, il y a des grands événements dans notre vie qui nous frappent, qui sont aigus, on pourrait dire, critiques. Mais le quotidien illuse. Et quelquefois, on finit par être vraiment lassé de pas mal de choses. Mais c'est que Dieu, quelque part, pourvoit à notre encouragement avec les fruits de sa fidélité et de sa prodigalité. Vous avez vu ? Prenez des fruits. Un fruit, c'est savoureux. C'est peut être quelque chose qui nous désaltère, qui nous nourrit. C'est plein de vitamines. Je ne suis pas en train de vous faire une... Je vous ferai pas d'ordonnance, hein, n'ayez pas peur. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu pourvoit. Et ces fruits sont cités dans ce texte pour nous montrer que là, ils vont aller au-devant, finalement, d'une aventure qui est pleine de promesses, mais avec beaucoup de difficultés pour l'acquérir, pour rentrer dans cette dimension. Il y a de la vigne, il y a du raisin, et la vigne et le raisin, c'est la joie. C'est l'image de la joie. Enfin, c'est comme ça que la Bible, une joie modérée, hein, vous avez compris. Hein. Mais toujours est-il que c'est ainsi. Et puis la grenade et la figue, c'est la douceur. Hein. La douceur du fruit du figuier, vous comprenez? Donc, nous marchons, il nous encourage, et il nous donne à partager ses fruits. C'est symbolique, hein, naturellement, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tout simplement. Et puis, vous avez remarqué, il y a un peintre de la Renaissance qui a fait un tableau, je ne sais pas où il se trouve, mais il nous montre la conquête du pays de Canaan avec deux hommes d'Israël qui portent une grappe, vous savez, sur une... Vous connaissez ce tableau, hein, une grappe géante. Eh bien, moi, cette grappe, vous savez, c'est pour ça que ça s'appelle Eshkol. Ça existe toujours en Israël. Hein. Eshkol, ça veut dire grappe. Mais pour nous dire que Dieu est abondant, vous savez, il nous donne pas des, c'est pas toujours des réductions qu'il nous donne, mais pour nous montrer que c'est formidable. Et à chaque grain de raisin, il y a quelque chose à découvrir. Alors ces hommes l'ont porté sur une perche, et bien tout simplement pour transporter, et ça, ça nous montre bien l'abondance. Un peu plus loin, au verset 25, nous poursuivons, il nous est dit qu'ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours, ce que je vous ai précisé tout à l'heure. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays. Un retour heureux et enthousiasme des premières impressions qu'ils ont ressenties. La première chose qu'ils ont vue quand ils sont revenus, c'est formidable. Mais il faut que ça reste formidable. Vous savez, quand Jésus nous donne la parabole des différents terrains où la semence est répandue. Le chemin pierreux, le champ rocailleux, les épines et les ronces, et ensuite le quatrième terrain, c'est la bonne terre, qui porte du fruit à 100%. Il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté ou fréquentent nos réunions. Lorsqu'ils viennent pour la première fois entendre l'évangile, ils sont enthousiastes. Ils disent « c'est formidable ». C'est pas du tout l'image que je me faisais de l'évangile, ou l'image que je me faisais de Dieu. Parce qu'il y a un caractère dans nos églises protestantes évangéliques qui est tout à fait particulier, que nous reconnaissons et qui nous a conquis, hein, pour chacun d'entre nous. Mais il y a des gens qui viennent, certaines viennent, et puis ils font des expériences extraordinaires, ils viennent à l'imposition des mains et ils sont guéris. C'est impressionnant, ça. Ce sont les premières impressions, ça. Ouais, oui, on est enthousiasmé, on est émerveillé, il y a des cantiques, il y a de la ferveur, il y a des prières à haute voix, il y a des prophéties, il y a des dons spirituels, il y a toutes sortes de choses. Alors les gens sont bouleversés en disant, mais... nous avons vu des choses étranges aujourd'hui en reprenant un texte que vous connaissez dans l'Évangile. Voilà. Mais ça ne dure pas. C'est la première impression, elle est bonne, et quand c'est la première impression que Dieu nous a touchés par le Saint-Esprit, il faut rester sur cette première impression. Il y a des premières impressions qui sont mauvaises, mais celles-ci, on les évince. Mais quand Dieu nous conduit pas à pas, comme il a conduit les espions à rentrer, à pénétrer, à goûter, à voir, à contempler sa bénédiction, restons sur cette première impression. Pour la plupart d'entre vous, si vous êtes là et que vous êtes là depuis des années, et pour certains peut-être depuis quelques mois, c'est que vous avez été touché et vous êtes resté, vous avez été fidèle à cette impression. C'est pas parce que le pasteur vous plaît, parce que j'ai les yeux bleus, ce qui n'est pas vrai, mais toujours est-il que quelque part... c'est par rapport à Jésus, c'est même pas par rapport au lieu, c'est même pas par rapport au centre évangélique, c'est que vous avez touché du doigt que le Seigneur est bon et c'est le Saint-Esprit qui vous a touché. C'est la première impression, et elle est bonne cette impression. Et là ils sont revenus, ils ont dit mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Ils ont fait un rapport, et on va le voir le rapport positif, et ils sont venus avec les fruits, ils ont dit regardez ce pays, regardez cette abondance, regardez cette vie nouvelle que nous allons avoir. Mais oui. Parce que tout était formidable, tout était splendide, prodigieux, et ça l'est encore avec Dieu, c'était vraiment l'excellence. Oui, Dieu leur a dit, je vous donne le meilleur. Je ne vais pas vous donner le commun de tout ce que les autres peuvent connaître, tous les autres hommes peuvent connaître, moi je vais vous donner le plus, le supérieur. Et certains ont certainement dit à ce moment-là, mais comme certains le disent encore aujourd'hui, ah, c'est trop vrai, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, moi, je crois que c'est jamais trop beau avec le Seigneur et c'est toujours vrai. Ça, il faut le comprendre et le réaliser. Mais il y a le doute qui guette. Il y a le doute. Alors, ils sont revenus, ils étaient là devant Moïse, devant les anciens d'Israël, tous ceux qui étaient restés, devant le peuple d'Israël. Et le doute commence par là, au verset, tout simplement, 27 et 28. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Donc c'est déjà même plus là. Ils avaient déjà descendu d'un étage, parce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse, tu les enverras, d'accord, mais ils étaient restés déjà sur l'homme plus que sur Dieu. Le pays où que tu nous as envoyés, toi Moïse. Non, c'est pas Moïse qui les a envoyés, c'est parce que Dieu leur a dit à Moïse, tu vas les envoyer. Donc le mandat, c'était un mandat divin. Et puis il nous est précisé après, à la vérité, et j'aime bien ce terme, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes, et nous avons vu des enfants d'Anak. Ah, quand Dieu nous touche et nous fait du bien, est-ce que nous avons besoin de rajouter un mais? Est-ce que nous avons besoin d'y introduire le doute? Est-ce que véritablement il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait bien lorsque nous discutons et que nous palabrons avec le Seigneur? Parce qu'il n'y a pas de mais avec Dieu. C'est oui et amen, nous dit l'apôtre Paul dans une des épîtres. Mais le doute, ah, ce doute, c'est terrible. Dieu nous bénit, nous fait du bien et nous sommes en train de... Ah, il y en a un qui manipule derrière, hein, ça c'est sûr. Et nous voyons qu'il va être introduit une dissuasion de taille qui nous fait réfléchir. Se décider entre ce que je crois et se décider entre ce que je vois. Vous voyez la nuance ? Dieu leur demandait de croire. Il leur a donné un coup de main pour qu'ils voient. Mais de voir devait renforcer leur foi et non pas faire le contraire. C'est ça le problème. Je le rappelle, je le répète. C'est la différence qu'il y a à faire. Et si nous sommes spirituels, nous allons faire cette différence sans problème. Mais si véritablement, eh bien, il manque vraiment la dimension et que nous sommes, voilà, avec des émotions charnelles, religieuses, ben on fera pas la différence. C'est-à-dire qu'il va y avoir la vue qui va dépasser la foi. Et c'est ce qui est vraiment le problème à ce moment-là. Se décider entre ce que je crois ou ce que je vois et le négatif de nos natures humaines, c'est propre à beaucoup d'hommes, va renverser le positif. Dieu leur avait parlé en positif et eux, ils veulent le convertir en négatif. Et la litanie du découragement commence. Voilà un peu ce que nous lisons. Ils vont dire, mais les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginaient, les Hébreux? Qu'ils allaient rentrer dans un pays, la clé en main, et qu'il n'y avait personne, et que... ils marchaient sur une terre étrangère, mais une terre étrangère qui allait devenir leur terre. Et c'était à eux de faire la conquête, par la foi. Quelquefois, nous-mêmes, nous nous faisons des idées fausses. Hein. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements, nous dit l'apôtre Jacques. Hein. Oui, tout nous sera donné. Tout nous sera donné par la main et la grâce de Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous, la seule chose que Dieu demande, c'est l'état de notre foi, c'est les conditions de notre foi. Et là, nous en arrivons à ce que nous, sur l'achoppement sur lequel nous butons, c'est notre raisonnement. C'est notre intelligence humaine. On ne l'abdique pas parce que Dieu l'a créé pour ça. C'est notre logique charnelle. Ou alors, c'est la confiance dans les promesses de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas seulement par la vue. La vue, elle nous sert. C'est vrai, c'est d'une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Mais Dieu veut changer un peu la nature, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur, c'est-à-dire notre âme et notre cœur. Alors, qui va triompher dans cette situation? Est-ce que c'est l'impossible humain devant tous ces peuples qui habitent, devant tout ce qu'ils voient et qui peut les effrayer? C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être effrayantes. Est-ce que c'est l'impossible humain? Ou nous disons très souvent, mais Seigneur, tu me demandes une chose qui est impossible, je n'y arriverai pas. Mais écoutez, Dieu ne nous demande pas d'avoir le pouvoir, il nous demande seulement d'avoir le vouloir. Et de vouloir croire. Alors les choses vont se faire dans ces conditions. Ou alors, est-ce que c'est une conviction de l'esprit qui nous anime? Je crois que Dieu dit la vérité et ce qu'il m'a promis, il va me le donner. Je crois que la parole de Dieu, elle est pleine de richesses et de bénédictions pour moi et elles me sont réservées et je tends maintenant la main de la foi pour les saisir. Ou alors de dire, eh bien Seigneur, c'est impossible. Ben, si c'est impossible, ça sera impossible. Et là, nous allons passer à côté de notre carrière. Nous allons passer à côté de l'essentiel. Impression dictée par nos yeux, le ressenti, nos sentiments qui nous submergent. Et ils sont partout, puisqu'il nous a dit qu'il y avait des Amalécites, il y avait des Cananéens, il y avait ceci et cela. Ben oui. C'est comme ça le monde, c'est comme ça la vie. Si nous pensons que finalement, tout est déjà fait, mais bien sûr, tout est déjà fait. Mais il y aura toutes sortes de gens qui sont là, et puis peut-être des obstacles. Alors, il est grand temps de reprendre pied, c'est ce que nous dit le verset 30. Il est dit cette parole, « Caleb fit taire le peuple » qui murmurait contre Moïse, et il a dit ces paroles, « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » Ah oui, il était temps, parce que l'hémorragie, ça commençait à faire pas mal de dégâts. Hein. Un homme se lève pour casser la démobilisation générale. Alors, je m'arrête un petit instant. Dans une église, on est là pour s'encourager, on est là pour s'exhorter. Exhortez-vous les uns les autres. On est d'accord sur le principe. Mais on a vu quelquefois dans certaines choses, dans certaines situations, qui ne sont pas forcément bien comprises, qui ne sont pas toujours saisies, où là, il peut y avoir dans les communautés un vent qui souffle et qui amène finalement à se démoraliser les uns les autres. Il y en a un qui est derrière pour faire ça. Ouais. Pour essayer de mettre par terre, et ça crée des divisions, hein. Ça crée toutes sortes de soucis. S'il y a quelques paroles qui doivent sortir de notre bouche, nous dit l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, me semble-t-il, ou 4, ça n'a pas d'importance, il nous est dit, mais que ça serve à l'édification et pas à la démolition. Nous avons besoin de sagesse et nous avons besoin d'apprendre de Dieu à faire attention à ce que nous disons, la manière dont nous interprétons les choses, dont nous voyons les choses. Jésus le dira, mais si ton œil qui est à l'intérieur de toi est ténèbres, mais tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors qu'on l'appelle dépression, qu'on l'appelle coup moral, ou neurasthénie, toutes sortes de choses, mais le Seigneur est venu pour nous guérir. Et il faut faire attention à l'utilisation de notre bouche. Et Caleb a dit, pas question, on va pas se laisser démonter, parce qu'il y en a qui ont vu des choses, mais ils ont vu le mauvais côté. Mais dans toute chose, même en tout homme, il y a un bon côté et un mauvais. Choisissons le bon quand même. Ce sera plus efficient que de dire, eh bien voilà. Alors quelquefois, c'est le pasteur qui n'a pas le moral. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de vous dire que je vais vous édifier ce matin. Je ne veux pas vous mettre dans un état... vous avez besoin d'être édifié. Hein. C'est pas facile. Alors il va casser la démoralisation générale. Et il a fait taire le peuple. Et il a donné une parole de foi affirmée, il a dit « Montons, emparons-nous et nous serons vainqueurs ». Mais dans nos prières, frères et sœurs, ou dans nos louanges, ou dans notre adoration du dimanche matin, mais c'est ça ce que le Seigneur veut entendre. Seigneur, nous te bénissons parce que tu vas nous donner la victoire. Tu nous as donné cette semaine une victoire. Tu vas nous bénir, mais c'est ça ce que le Seigneur veut entendre, parce que nous proclamons notre foi en même temps que nous le confessons. C'est important. C'est tout simplement de l'action résolue à la victoire. Verset 31, c'est pas fini. Mais les hommes, ça fait deux fois qu'on voit le mot « mais ». Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Eh oui, ah les pauvres, « Nous ne pouvons pas monter. Seigneur, je peux pas prendre la guérison parce que, voilà. » Et puis il y en a d'autres qui viendront vous voir en disant « Mais t'as pas la foi pour prendre la guérison. » Si vous étiez à la place de celui qui est malade, faudrait mieux s'abstenir de dire des choses pareilles. Hein. Parce que là, vous cassez. Hein. Nous ne pouvons pas. Ils sont plus forts que nous. Bien sûr qu'ils sont plus forts que nous. Mais tout est plus fort que nous. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Il nous est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors où est notre foi dans cette affaire? Où est notre foi? Voilà un esprit de défaite caractérisé que nous sommes en train de découvrir. Ils étaient déjà vaincus avant d'avoir essayé. C'est malheureux hein, qu'il y ait des gens qui ont déjà les bras ballants. Ils n'ont même pas fait le premier pas. Quand Abraham a été appelé par Dieu à quitter son père, sa mère, et puis de quitter son pays, la patrie, il a fait un premier pas. Et après, quand il a fait un premier pas, Dieu lui dit « Tu lui as fait un deuxième ». Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le pays de Canaan. C'était un peu ce qui se passait à ce moment-là. Quand l'homme est par terre, quand le chrétien est par terre, quand le croyant est par terre, voici sa réaction de vaincu et ce qu'il dit en témoigne. Le verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme, et aux leurs, comme des sauterelles. C'est terrible. Ils se sont mis à décrier, ils se sont mis à critiquer, ils se sont mis à contaminer les autres. Ce qu'ils avaient vu, c'était bien, mais ils vont dire le contraire. C'est curieux, hein? Et ils vont le dire tout autour d'eux. Vous savez, il y a une chose dont il faut nous garder quand nous passons des moments difficiles. Tout le monde passe des moments difficiles. Et là, nous sommes beaucoup plus vulnérables lorsque nous sommes malades physiquement, malades moralement, malades spirituellement, on s'entend. C'est de tomber dans l'amertume, de tomber dans la critique et dans le murmure. Combien de fois vous avez le mot murmure dans l'Ancien Testament, dans le périple des Hébreux lorsqu'ils sortent d'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, ça durait 40 ans. À chaque page, il nous est dit qu'ils murmuraient contre Moïse et contre Aaron. Ils murmurèrent contre Dieu. Ils murmurèrent de cette manière. Ils murmurèrent d'une autre. S'il y a une chose qui doit faire la preuve de notre nouvelle naissance, c'est que cet état de cœur doit être changé par le Seigneur. Il est venu pour ça, pour nous guérir. Il y a des gens qui n'aiment pas les murmures ni les critiques, mais il y en a d'autres qui peut-être sont plus avenants pour ça. Mais si nous voulons faire la preuve que nous sommes des enfants de Dieu authentiques, que nous avons vraiment l'Esprit de Dieu, qu'il y a une nouvelle naissance, on parle en bien, on parle pas en mal. Ah, c'est pas possible. Et on l'a vu, hein, on l'a vérifié, hein. Après des années de ministère dans l'œuvre de Dieu et d'avoir suivi des églises, en principe, à un moment donné, ils ne peuvent pas rester dans l'église. Ils s'en vont eux-mêmes. Ouais. Ils partent. Et ils perdent le bénéfice de leur carrière. Parce que ça va trop loin à un moment donné. C'est pas possible. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir bien commencé et mal fini, hein. Et ils vont dire, nous étions à leurs yeux, bon, des gens du pays de Canaan, et aux nôtres, comme des sauterelles. Bah, ça saute une sauterelle, hein, c'est fait pour ça, hein. Vous avez vu les pattes qu'elles ont derrière, hein. Eh oui, mais nous étions à leurs yeux. Je voudrais vous poser une question avant de finir. Comment nous voyons-nous, nous? Comment nous voyons notre frère? Mais ça, c'est une chose, c'est accessoire, c'est son affaire. Mais comment nous voyons-nous, nous, personnellement? Est-ce que nous nous voyons en vaincus? Ou en perdant, ou est-ce que nous nous voyons en vainqueur? Parce que si nous nous voyons en vainqueur, nous allons vaincre. Ça, c'est une question d'enthousiasme. Et vous savez ce que veut dire le mot enthousiasme en grec? C'est Dieu en soi. Anthéos. Dieu en soi. Si Dieu est en nous, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu de vie. Et nous ne devons pas nous voir comme, finalement, eh bien, des vaincus ou des perdants, mais nous devons nous voir, comme Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, plus que vainqueurs en toutes choses, par celui qui nous a aimés et qui nous fortifie tous les jours. Et ça, ça change la donne. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il peut bien y avoir des géants, il peut bien y avoir tous les peuples qui sont en train de faire la guerre à Israël, il peut bien y avoir des hautes montagnes, il peut bien y avoir des forteresses et des citadelles, mais ça, ça ne change rien. Dieu se rit de tout ça, de nos difficultés que nous pouvons rencontrer. La seule chose, c'est qu'il nous demande de lui faire confiance. La foi rend fort et courageux. Alors, vous pensez que vous êtes des sauterelles? Non, moi je ne pense pas. Et c'est pas comme ça que je veux me voir. C'est pas comme ça que je vous vois, mes frères et sœurs. Et c'est pas comme ça que je vois l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs dans la personne de Jésus. Parce que David le dit, hein, avec Dieu, nous ferons des exploits, résultat à la mesure, soit du doute ou de la foi. La conclusion est la suivante. Toute l'assemblée, je vais passer au chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. La peur panique. Ah, ça c'est un fléau. La peur panique étant le fruit naturel de l'incrédulité. Israël pleure et il crie. Et il va perdre à ce moment-là sa vision d'aller de l'avant. Son refuge, illusoire, c'est de faire demi-tour à travers les versets suivants. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Eh oui, ils avaient pleuré pendant des années pour sortir, et maintenant qu'ils étaient sortis, ils disent au Seigneur, eh bien nous voulons retourner. On ne va pas retourner d'où nous sommes venus. Hein. Moi j'ai pas envie de revivre la vie avant de connaître le Seigneur, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je regarde en avant, et nous allons tous regarder en avant, et nous allons tous marcher d'un même pas, et serrer les coudes. Ça c'est important. Le Seigneur nous a donné ces derniers temps des encouragements quand même, non ? Et moi, je me réjouis de ce qui se passe à Redon actuellement, où dans les cultes, il n'y a plus de place. Où là, d'ici 2 mois, nous allons avoir une salle toute neuve, de 150 places, au maximum. Je me dis, mais Seigneur, c'est formidable ! C'est pas le pays de Canaan, Redon, hein ? Mais quand même, je me dis, mais le Seigneur bénit ! Mais le Seigneur bénit son Église, mais il nous bénit chacun dans son Église ! Chacun pour notre part, et ça, c'est essentiel. Quand on perd le sens de la vraie vie, alors on tombe dans la médiocrité et dans la mort, parce que c'est ce qui va se passer. Ils disent, mais que nous sommes-nous morts en Égypte ? Ils préféraient mourir en Égypte que de rentrer dans la promesse de Dieu. C'est terrible, une chose pareille. Quand on confond nos impressions mensongères avec la vérité des projets de Dieu, quand on croit que la bénédiction divine est une malédiction pour nous, alors on s'enferme dans d'interminables murmures et de révoltes. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Mes frères et sœurs, il est temps que nous vraiment, et pour certains nous sommes là prêts à aider ceux qui marchent difficilement, ceux qui ont des problèmes à résoudre peut-être moralement et spirituellement. On est prêt et on prie pour ça. Mais il faut pas se renfermer. Faut pas fermer la porte parce que c'est une prison avec des barreaux de fer. Et là, nous n'allons pas nous en sortir. Nous sommes dans le raisonnement de ces Israélites où Dieu voulait donner la bénédiction et la vie et eux, ils se retranchaient dans la mort. Écoutez, est-ce que nous avons bien compris l'appel et le message que le Seigneur nous donne ? Il faut avancer. Il faut courir dans la carrière. Puisque la porte nous est ouverte, nous allons la refermer nous-mêmes. Ben moi, je dis, c'est un sacrilège, quelque part. Ah oui. Verset 4 est la conclusion. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu avait donné dans la circonstance un homme exceptionnel, un chef, un prince qui est devenu le prince d'Israël. C'était Moïse. Dieu avait ajouté à Moïse 2 hommes de foi d'exception, tout autant d'exception, qui sont devenus des héros. Il y avait Caleb et Josué. On sait. Mais l'inspiration d'un mauvais conseil prend le pas sur la sagesse de faire confiance à Dieu. Vous avez vu ? Il nous est dit tout simplement, nommons-nous un chef. Ils se dirent les uns les autres. Là, ils ne consultent pas Dieu. Ils pensaient que Moïse les avait trompés, que Caleb et Josué étaient des illuminés qu'il ne fallait pas suivre. Vous savez ce que ça leur a coûté ? Ça faisait 2 ans qu'ils étaient sortis d'Égypte. Dieu leur a donné un petit supplément pour aller faire des châteaux de sable dans le désert. 38 ans. Quelquefois, nous arrêtons l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quelquefois, c'est nous qui stoppons les choses dans notre propre vie. Et nous ne pouvons pas accuser les autres. Même si nous sommes tombés dans un état négatif, nous ne pouvons pas dire, ah bah oui, mais c'est l'Église, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. C'est nous le problème. Nous sommes notre propre problème. Nommons-nous un chef, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont de droite et de gauche courir, hein, de un prophète par-ci, un prophète par-là, on en a vu, et quelquefois ils en perdent la foi avec tout ça, ils savent plus où ils en sont rendus. Nommons-nous un chef, mais on a besoin que de Jésus, on n'a même pas besoin d'un pasteur comme moi. Je dis, mais au moins, si votre maturité spirituelle vous amène à vous confier, à faire de Jésus toute la place dans votre vie, mais moi je serai déjà satisfait. Ça sera le but de mon ministère. C'est pas de m'attacher à des gens, c'est pas de m'attacher à une église, et c'est pas vous-même vous attacher à des hommes et vous attacher à une église, c'est surtout de vous attacher à Jésus. C'est lui qui est le chef, on l'a lu tout à l'heure, il est le chef et le consommateur de notre foi, c'est lui qui la porte à la perfection. Israël se trompe dans sa destination, hein. Ah oui, et il préfère l'Égypte, un retour en arrière au pays où coule le lait et le miel. Je voudrais terminer par une citation que vous connaissez. Avancer, c'est-à-dire aller de l'avant, oblige à des changements qui nous font peur. Ah oui. Eh oui. C'est vrai que quand on est bien installé dans quelque chose, ils étaient installés en Égypte, mais ils étaient malheureux, terriblement malheureux, ils étaient misérables, mais ils se contentaient de leur situation de médiocrité. Et c'est vrai qu'il faut le dire que cela nous oblige à des changements qui font peur. Parce que ces changements nous poussent à quitter, comme quelqu'un l'a dit, les hamacs de nos vieilles habitudes. Vous savez ce que c'est qu'un hamac? Dolce vita. Pour ceux qui, voilà, hein. Eh ben ouais, quelquefois, Dieu coupe les cordes de notre hamac et puis on se retrouve par terre. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Comme au paralytique, lève-toi et marche et avance. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis ta parole pour chacun d'entre nous et que nous puissions avoir entendu ce message qui n'est pas un message d'un homme, mais qui est le message de l'Esprit, par le fait même, Seigneur, que nous n'avons pas été autrement et que nous n'avons pas fait autre chose que de lire le texte de ta parole ce matin. Et nous te bénissons et nous te remercions. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont en arrêt, qui sont en stationnement, qui ne peuvent plus avancer, qui sont malheureux, qui tournent en rond dans des logiques et des réflexions, Seigneur, qui n'ont plus rien à voir avec la vie d'Esprit. Eh bien, visite-les, stimule-les, Seigneur, et je te demande de passer dans les rangs maintenant et qu'ils puissent prendre la décision. En effet, eh bien de dire maintenant je me mets debout Seigneur et je continue à marcher avec toi, je reprends la route parce qu'en effet tu as prévu pour moi ce pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire la bénédiction dans l'abondance. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais demander tout de suite à notre frère monsieur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.